Aujourd'hui, nous allons vous parler de la lecture, mais aussi du projet Ado en colère, qui a eu lieu dans le Pas-de-Calais durant cette année scolaire. Ce projet consiste à faire découvrir une sélection de plusieurs œuvres littéraires à des élèves. Ce prix a été mis en place par des documentalistes des collèges de Liévin, de l'association Colère du Présent et de la médiathèque départementale du Pas-de-Calais. C'est un prix qui consacre un ouvrage de fiction en littérature de jeunesse et le but de tout ce projet, c'est de promouvoir l'écriture et la littérature d'expression populaire et amener le plus grand nombre d'élèves à découvrir des auteurs d'aujourd'hui et leurs œuvres. L'idée, c'est aussi d'amener chacun à se questionner sur la société actuelle, développer l'esprit critique, l'ouverture aux autres et de susciter le débat. Dans cette émission, nous écouterons des chroniques sur les livres sélectionnés pour le projet Ado en colère cette année. Nous entendrons l'interview de Florence Inkel, l'autrice d'un des livres en compétition. Mais avant tout ça, un micro-trottoir réalisé par les élèves de 4e D du collège d'Hydrou à propos de la lecture et de ce que lire leur apporte.
Quel type de livre vous lisez?
Ouais, j'aime bien Tintin Milou.
Bande dessinée, j'aime bien aussi.
Les BD, ouais.
Tout ce qui parle sous l'histoire, qui rapporte à l'histoire.
La littérature moderne, des romans actuels.
Des thrillers.
J'aime beaucoup le fantastique, fantasy, les BD.
Des lectures, surtout des lectures sur Johnny Hallyday, qu'il a fait de sa vie, tout ça.
Et la littérature, parce que j'ai toujours été fan de littérature, j'ai fait des études littéraires et voilà.
Les livres plutôt intimistes. Des livres, des romans sur les personnes, sur l'intérieur des hommes, des femmes.
Combien lisez-vous de livres par an ou par semaine ?
Je sais pas, un livre par mois.
Par semaine, entre 3 et 8. Et par an, c'est une catastrophe et j'ai plus de place pour ranger mes livres.
J'en lis environ un tous les 15 jours.
Et depuis que je suis en retraite, j'ai plus une minute, un mois pour lire.
Pendant le confinement, j'ai bizarrement pas beaucoup lu.
Alors en ce moment, comme je suis en arrêt de travail, un livre par jour. Si c'est des petits, selon le volume.
C'est déjà beaucoup.
On va dire une moyenne de quand même de 3 livres par semaine, on va dire.
Bah hier, j'en ai lu 2.
D'après vous, quels sont les bienfaits de la lecture ?
C'est la détente, connaître des choses plus ou moins nouvelles, quelquefois.
Ça me permet de me changer les idées, de m'évader, d'apprendre plein de choses, découvrir des auteurs, des univers différents à chaque fois.
Bah, la lecture, elle m'apporte d'oublier un petit peu ma condition d'humain et de me mettre un petit peu, de me plonger dans un autre monde, dans d'autres réalités que la mienne.
Découvrir déjà, suivant ce que vous lisez, la lecture aussi pour se reposer l'esprit. La lecture, comme je vous ai dit, pour connaître. Et puis, on passe un moment avec soi-même aussi. Et ça fait marcher l'imagination. Et on apprend beaucoup de vocabulaire.
C'est intéressant, même pour les jeunes. Les jeunes, il faut qu'ils lisent beaucoup, même pour l'école. Bah, on se sent bien et puis on est décontracté.
L'orthographe. Et puis changer les idées.
Avez-vous un livre préféré? Si oui, lequel?
Ce ne sera pas du policier. Ce sera la délicatesse.
J'adore Astérix, j'adore Lucky Luke.
J'aime bien les BD, mais Tintin Milou, pas les autres. Hein ?
Nous sommes de retour après cette écoute d'un micro-trottoir dans les rues d'Arras. Parlons maintenant des livres du projet Ado en colère. Ils étaient 4 en compétition cette année. Ce qui fait battre nos cœurs, de Florence Inkel. Lancer l'alerte de Jean-Christophe Tixier, Féline de Stéphane Servan, Pour un sourire de Milad de Silène Guerre. Nous vous proposons d'écouter une chronique concernant chacun de ces livres et d'en entendre un extrait lu par les élèves. À toi, Andréa.
Pour un sourire de Milad est un roman de science-fiction écrit par Silène Guerre. Il raconte l'histoire de Tisbé, jeune lycéenne vivant dans l'ombre de sa sœur jumelle Juliette. Elle rencontre Milad, un jeune réfugié syrien. Elle, qui ne croyait pourtant pas au coup de foudre, tombe follement amoureuse de ce beau garçon au teint hâlé. Mais Milad cache un terrible secret. Tisbé finira-t-elle par le découvrir ? J'ai beaucoup aimé ce livre car il relate d'une très belle façon les tiraillements de l'adolescence. Au cours de l'histoire, les personnages se font de plus en plus attachants. De plus, il aborde un thème d'actualité, les réfugiés et leur adaptation à notre société, parfois compliquée.
Il montre à Tisbé avec ses fantômes son parcours dans le désert. Retour brusque à la réalité. Milad grand pleure. Il étouffe de sanglots. Il s'accroche à mes mains comme à une barrée. Les fantômes l'entourent. Je ne peux pas, c'est trop dur. La mère de Milad entoure son fils de ses bras de brume et l'embrasse. Cela doit être comme une caresse d'une mèche de cheveux ou l'effleurement d'une plume. Il respire un grand coup et le tourbillon reprend.
C'était un extrait de « Pour un sourire de Milad » de Silène Edgar, lu par Luna. Passons au livre suivant. « Lancer l'alerte » de Jean-Christophe Tixier. « Lancer l'alerte » est un roman de science-fiction écrit par Jean-Christophe Tixier. Il raconte la vie de César, un jeune homme harcelé par tous les habitants de sa ville. Sa mère Nathalie, employée à la Segica, l'entreprise chimique de la ville, a publié une vidéo choc d'elle en train de vider le contenu de la cuve de son camion-citerne dans la nature. Celui-ci contenant des produits chimiques polluant la ville. S'ensuit alors des violences, des dégradations sur leurs biens immobiliers, des humiliations. Des événements traumatisants vont s'enchaîner. Mais dans son malheur, l'amour de Louane, sa petite amie, l'aidera à surmonter cette épreuve. J'apprécie que ce récit soit inspiré d'une histoire vraie. Passionnante, intrigante et sentimentale. Le plus intéressant, c'est qu'on est littéralement plongé dans cette histoire absorbante. On ne peut s'empêcher de lire la suite.
Nathalie met quelques secondes à réaliser ce que cette nouvelle implique. Elle sort de sa torpeur. Oui, je vais préparer quelques affaires. César, il a raison. On doit partir au plus vite. Ce n'est pas tout, continue Louis. Il se tourne vers César. Le père de ton ami a été placé en garde à vue. Des policiers vont l'interroger pour déterminer ses responsabilités dans cette affaire. Cette nouvelle est un véritable séisme. César panique. Se remémore la promesse faite à Louane. Tout redevient soudain très compliqué. Laisse-moi une heure, insiste-t-il à sa mère. Je dois aller voir Louane.
C'était un extrait de « Lancer l'alerte » de Jean-Christophe Tixier. Le livre suivant, « Féline » de Stéphane Servan.
Il raconte l'histoire de Louise, jeune lycéenne des plus normales, vivant dans une petite ville. Elle est hantée par la mort de sa mère, survenue un an plus tôt, dans un accident. Louise s'en veut beaucoup, et vieux recluse, n'allant que dans la librairie Droguerie Bazar de M. Blanchet. Mais alors qu'une de ses amies de primaire, Alexia, se suicide suite à un événement plus qu'inquiétant, elle comprend que celui-ci va bouleverser sa vie et celle de toutes les adolescentes du monde. J'ai aimé ce livre car il parle de féminisme, d'entraide entre adolescentes, de la place qu'elles ont dans notre société. Il parle aussi du monopole des réseaux sociaux dans notre vie et la vitesse à laquelle ceux-ci peuvent en détruire une.
J'ai écrit « Nous sommes ». Je lui ai tendu l'affiche dégoulinante de peinture « Nous sommes ». Ça, c'est vraiment nous. Fatia m'a regardé avec un sourire. Ouais. Ça, ça sonne bien. Nous sommes. Les filles autour ont approuvé. L'une d'elles a dit « Oui, nous sommes, c'est mieux. Nous sommes des félines. » Une autre a ajouté « Et nous sommes en colère. » Et puis ça a été un tourbillon de cris et d'idées. Nous sommes l'étincelle. Nous sommes le feu. Nous sommes l'orage. Nous sommes amoureuses. Nous sommes des princesses à poil. Nous sommes des sorcières, maléfiques, étranges, puissantes, terrifiantes, extraordinaires. Nous sommes complètement dingues.
Clément nous a lu un extrait de Féline de Stéphane Servan, le regagnant du prix Ado en colère. Et pour finir, une chronique du livre de Florence Inkel, Ce qui fait battre nos cœurs. Il se déroule dans un futur proche. Il raconte une histoire futuriste dans laquelle des organes artificiels sont créés pour remplacer les organes naturels défectueux. À la moindre émotion, la petite sœur d'Esteban est en danger. Elle vit avec un cœur artificiel bas de gamme. En 2030, le marché propose pourtant des organes performants et sûrs, fabriqués par la société organique. Encore faut-il pouvoir se les payer. Désespéré, Esteban kidnappe Leila, une jeune fille célèbre, et Noah, le riche héritier d'organique. Le deal ? Il relâchera les otages s'il obtient un nouveau cœur pour sa sœur. Commence une nuit de cavale sur les routes de France, retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est son réalisme. On est plongé dans l'histoire. À la fois palpitante et touchante, on comprend ce qu'est capable de faire un jeune homme pour sauver sa sœur.
Un jour, j'ai lu que le mot « cœur » apparaissait dans 67 expressions de la langue française. J'ai trouvé cela si réconfortant que je les ai toutes apprises. Apprendre par cœur. J'y pense souvent quand je suis avec ma petite sœur Sophia. Sophia, 8 ans, toutes ses dents, mais un cœur artificiel, pas tout à fait à point. Ces 60 expressions sont comme une formule magique, un mantra qui repousserait les mauvais sorts, une façon d'envoyer des ondes bénéfiques ou encore un message « Eh, toi, le cœur artificiel, souviens-toi que tu occupes le corps d'une petite fille et que sa vie en dépend. »
Cet extrait de « Ce qui fait battre nos cœurs » de Florence Inkel nous a été lu par Loeva. Justement, on écoute une interview de Florence Inkel, réalisée par téléphone par les élèves de 4e D du collège d'Hydro.
Écrire, ça peut être écrire pour son plaisir, simplement, que je fais depuis que je suis petite, en fait, depuis que j'ai 10-11 ans. Ou bien, ça peut être un métier. Et ça, c'est ce que je pratique depuis plus de 15 ans. Voilà, donc, c'est-à-dire être publié et éventuellement réussir à en vivre.
Est-ce que vous arrivez à vivre de votre plume ?
Maintenant, oui. C'est ce qui n'était pas le cas au début de ma carrière, bien sûr. Parce que, pour pouvoir en vivre, il faut évidemment vendre beaucoup de livres, parce que c'est comme ça que les écrivains vivent, c'est avec les droits d'auteur sur les ventes des livres. Donc au début de ma carrière, moi j'ai commencé assez doucement dans une toute petite maison d'édition, je ne vendais pas beaucoup de livres, et peu à peu, ça a pris de l'ampleur, et d'ailleurs abandonné mon premier métier qui était enseignante, pour pouvoir ne faire que ça, parce que ça me prenait de plus en plus de temps. Donc oui, aujourd'hui j'en vis, oui.
Quels sont les avantages et inconvénients de ce métier ?
Les avantages, plus grand avantage, c'est la liberté, je trouve. Parce que je peux parler dans mes livres de ce que je veux. Voilà, c'est pas les éditeurs d'ailleurs, hein, ça je tiens à le dire, parce que parfois, certaines personnes croient que les éditeurs me disent quoi faire, pas du tout. Ils me laissent totalement libre de ce que j'écris. Et il y a aussi une liberté dans l'emploi du temps. Je n'écris que quand je veux. J'ai pas un patron qui me dit, bon, tu commences à 8h, puis tu finis à 18h. Voilà. Donc ça, c'est quand même aussi très appréciable. Et puis, les inconvénients, alors, ils découlent un peu des avantages, parce que quand on est très libre de son emploi du temps, il faut soi-même se donner un peu des coups de pied aux fesses pour pouvoir se mettre au travail. Et puis, même des fois, on est plus exigeant qu'un patron, en fait. Voilà, parce que moi, il est possible que je travaille dans la journée, que je travaille le week-end, que je ne m'octroie pas beaucoup de vacances, voyez. Donc, du coup, ça peut être un piège. L'autre inconvénient, c'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on est dépendant des ventes des livres pour gagner de l'argent. Donc, c'est très aléatoire. On n'a pas un salaire qui tombe tous les mois. Et du coup, il faut aussi réussir à bien négocier ses contrats avec les maisons d'édition, ce qui est très, très difficile parce qu'on est face à une entreprise alors qu'on est tout seul. Voilà, donc ça, c'est quand même des inconvénients aussi importants. Et puis, il y a beaucoup de côtés administratifs qu'on ne soupçonne pas quand on débute et qui est très lourd.
Est-ce qu'il faudrait être coupé du monde pour pouvoir écrire ?
Ça dépend des écrivains, je suppose. Alors moi, j'ai eu un cas pratique avec le confinement. Je me suis dit, ah ben c'est super le confinement, je vais être chez moi, coupée du monde, effectivement, puisqu'on ne pouvait pas sortir. Hein. Et je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir écrire. Et ben ça n'a pas du tout fonctionné. Donc moi, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire, que j'avais besoin du monde pour écrire, que j'avais besoin de rencontres, que j'avais besoin d'être en plein dans la vie, de voir les gens vivre, de parler avec eux pour pouvoir écrire. Donc, en tout cas, moi, vraiment, je ne peux pas être coupée du monde pour écrire.
À quel âge avez-vous écrit votre premier livre et quel nom porte-t-il ?
Alors, il y a deux réponses à cette question. Il y a ce que je considère comme le tout premier roman que j'ai écrit. Je l'ai écrit à 10 ans. Mais évidemment, il n'a pas été publié. C'était pas du tout publiable et ça l'est pas. C'est écrit par une petite fille, voilà. Mais néanmoins, j'ai rempli un cahier de brouillon en entier. C'était une histoire complète. Donc, je le considère comme mon premier roman, voilà. Et ça s'appelait Une histoire bizarre. Mais bizarre, c'était totalement loufoque avec un poney qui volait. Sinon, le premier roman que j'ai publié, donc ça c'est autre chose, hein, j'allais sur mes 30 ans. J'avais à peine pas encore 30 ans. C'était un roman policier qui s'appelait Panier au mystère, parce que ça se passait dans le quartier du Panier à Marseille.
Avez-vous eu une révélation ou un déclic pour exercer le métier d'écrivain ou est-ce une vocation pour vous ?
C'est difficile de répondre à ça parce que je ne le sais pas. Comme je vous ai dit, moi j'ai commencé à écrire assez tôt, mais je ne suis pas la seule. Beaucoup d'écrivains écrivaient quand ils étaient enfants, c'est souvent comme ça que ça se passe. Tout ça pour vous dire que c'est rarement quand même un déclic comme ça, tac. C'est pas une fois adulte qu'on dit « tiens, je vais être écrivain ». C'est très rare que ça se passe comme ça. C'est quelque chose, à mon avis, qu'on porte en soi depuis longtemps. Donc, pourquoi je me suis mise à écrire et à écrire vraiment beaucoup, hein, à l'âge de 10-11 ans, je ne le sais pas du tout. Je sais pas, je me rappelle pas avoir eu un déclic, quelque chose qui m'a amené sur cette voie. Simplement, j'aimais beaucoup lire déjà. Et voilà, c'était mon moyen d'expression privilégié et c'est tout. Ça faisait partie de ma personnalité. Voilà. Et peu à peu, il y a des périodes de ma vie où ça a pris plus ou moins d'importance. J'ai moins écrit quand j'étais jeune adulte parce que j'étais occupée à d'autres choses. Puis c'est revenu. Voilà. Je pense pas que ça puisse être une décision comme ça qui vient, tiens, j'ai envie d'écrire des romans. Voilà. Je pense que c'est rare que ça se passe comme ça.
Comment trouvez-vous l'inspiration ? Avez-vous un lieu particulier pour écrire ? Avez-vous connu le syndrome de la page blanche ?
Alors, quand on retrouve l'inspiration, là encore, je pense que c'est particulier à chaque écrivain et chaque écrivaine. Moi, je trouve souvent l'inspiration en observant le monde autour de moi. Comme je disais, hein, sur cette, je peux pas être coupée du monde, c'est vraiment en écoutant les gens, leurs histoires. Ça peut être simplement en écoutant une bribe de conversation dans la rue, ça peut déclencher une idée d'écriture, ça. C'est en beaucoup en lisant les journaux, voilà, en me tenant au courant de l'état du monde. Moi, ça joue beaucoup. En lisant des articles scientifiques aussi, hein, parce que ça peut me donner des idées pour mes romans d'anticipation, par exemple. Voilà, donc c'est tout un ensemble de choses qui fait l'inspiration, qui donne les idées. Et sinon, oui, bien sûr, le syndrome de la page blanche, je pense que là encore, tous les écrivains et les écrivaines le ressentent une fois dans leur carrière, au moins. Moi, ça a été plusieurs fois. C'est régulier, en fait. Et c'est normal, parce qu'on n'est pas des robots, on peut pas écrire comme ça, on continue, voilà, on n'est pas des machines. Puis même une machine, elle a besoin d'être nourrie. Alors on est peut-être des machines écrivantes, mais on a besoin à un moment de pause, de se reposer et de se nourrir d'autres choses. Donc de se nourrir d'autres cultures, d'autres romans, d'autres films, d'autres histoires, pour pouvoir en imaginer à son tour. Donc oui, régulièrement, il y a des moments où je n'arrive pas à écrire. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines même. C'est pas facile à vivre, mais il faut l'accepter.
Nous sommes toujours avec Florence Hinkel, l'autrice de Ce qui fait battre nos cœurs.
Quel genre de livre préférez-vous ?
Je suis assez éclectique dans mes lectures. Alors, éclectique, ça veut dire qu'on est très diversifié, hein. J'aime autant lire des romans historiques que des romans contemporains, que un tout petit peu de science-fiction. Je lis beaucoup de littérature jeunesse aussi. J'adore ça. Voilà. Et puis, dans mon écriture, j'aime bien également explorer tous les genres. Donc, pendant longtemps, je n'ai écrit que des récits contemporains de vie quotidienne. Et je me suis diversifiée. J'ai commencé à le faire en écrivant de l'anticipation. J'ai adoré ça. C'était un pas de côté vraiment rafraîchissant pour moi. Puis voilà, je peux écrire des romans d'aventure comme U4, des romans où il y a un petit peu d'anecdotes historiques comme dans La famille Papillon. Je peux écrire aussi des livres qui s'apparentent plutôt à des pamphlets comme Renversante. Voilà. Moi, je me donne pas de barrière. C'est simplement quelque chose, un sujet ou des personnages que j'ai envie de vivre. Et ensuite, l'histoire, ben voilà, le genre qui vient n'est souvent pas prédéfini à l'avance dans ma tête. Il arrive comme ça.
Quel est le livre dont vous êtes la plus fière et quel est son sujet ?
Alors, eh bien, il faut que je dise quand même que je suis fière de tous mes livres. Ça, c'est bien parce que je me suis battue pour ça. Hein. Parfois, il y a des éditeurs qui essayent de me passer commande en me disant « Ouais, j'aimerais bien que tu aies écrit sur ceci, cela. » Et moi, j'ai toujours refusé. Même si financièrement, ça pouvait être intéressant, j'ai toujours dit non. Parce que je veux que j'écris vienne de moi, de profondément en moi, de mes révoltes, de mes peurs, de tout ça. Voilà. Et à partir de ce moment-là, comme tout est venu de quelque chose de profond en moi, je suis fière de tous les romans que ça a donné. Après, il y a quelque chose de spécial qui se fait quand il y a une rencontre avec le public particulière. Il y a des romans qui ont été accueillis par le public vraiment très très favorablement. Et du coup, j'ai tendance à plus apprécier ces romans-là puisque je me dis, ils ont eu une vie spéciale chez d'autres gens. Voilà, donc ça a été le cas avec U4 Yanis. J'ai eu des retours fabuleux, puis de tous les âges en plus. C'est vraiment une lecture tout public qui a touché des ados, des adultes, des vieilles personnes même. Donc ça, c'était assez fabuleux. Donc du coup, j'apprécie beaucoup celui-ci. Il s'est passé un peu la même chose dans une moindre mesure avec 4 filles et 4 garçons. Je continue à avoir beaucoup de messages concernant ce gros roman. Même des jeunes gens, des jeunes filles qui me disent que ça a changé leur vie. Et ça, franchement, voilà, quand on a des retours pareils, ben, forcément, on se dit on a réussi quelque chose, quoi. Et donc, du coup, on finit par être encore plus fier du roman qu'on a fait.
Avez-vous déjà écrit des poèmes ou des pièces de théâtre ?
Alors, des poèmes, non. Je suis très nulle en poèmes, il faut bien le dire. Même si j'aime bien lire la poésie, je suis très, très admirative de la poésie. J'aime beaucoup ça. Mais moi, je ne suis pas du tout forte là-dedans. Des pièces de théâtre, oui. Alors, voilà, mon premier gros projet, c'est une pièce de théâtre à 17 ans, mais abominablement mauvaise. C'était très pompeux, très lyrique. Voilà. Bon, mais c'était amusant à écrire et j'ai quand même de l'affection pour cette pièce de théâtre affreuse.
Avez-vous déjà coécrit des livres ? Et si oui, avec qui voudriez-vous coécrire des livres ?
Bon, oui, j'ai déjà écrit avec trois autres auteurs, hein. C'était le projet U4. Voilà, c'est un projet très, très intense qui a duré 2 ans, du coup, hein, parce qu'il y avait tellement d'interactions, tellement de choses à mettre en place pour que ça se tienne. Hein. Voilà, c'est 4 romans, en fait, où les personnages se croisent dans chacun des romans. Donc, ça a été un énorme travail. J'ai vraiment beaucoup aimé faire et qui m'a beaucoup apporté, je pense. Voilà, après, est-ce que je serais prête de nouveau à faire un travail comme ça avec un autre auteur ou une autre autrice? Je ne sais pas. J'ai eu des propositions et j'ai encore jamais été séduite par ce qu'on m'a proposé, ce que d'autres auteurs ont pu me proposer, quoi. Et je crois que là, pour le moment, je suis dans une période depuis 4, hein, où j'ai besoin d'écrire seule. J'ai des choses tellement personnelles à dire, à exprimer, que je ne pourrais pas, je crois, actuellement, travailler avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est des périodes, hein, ça peut tout à fait changer. Donc voilà, il est très possible qu'un jour, je me remette à écrire avec un autre auteur ou une autre autrice.
Quelles sont les grandes étapes avant qu'un livre ne soit édité?
Ben, évidemment, la grande étape, c'est d'abord arriver au bout du roman. Hein, voilà. Alors moi, j'ai plus trop de difficultés pour le faire accepter par un éditeur maintenant, parce qu'ils me font confiance, puis j'ai acquis de l'expertise. Donc c'est plus une étape importante, l'acceptation par l'éditeur. Alors que ça l'était. Au début de ma carrière, c'était l'étape primordiale même. Hein. Maintenant, plus. Maintenant, l'étape la plus importante, ça va être ensuite le retravail avec l'éditeur, hein, qui peut être important. Et il y a des réunions avec les représentants des librairies, par exemple. C'est aussi une étape, hein, pour mettre en place la promotion du roman, pour qu'il soit bien lancé. Puis ensuite, ben, il y a la parution du roman. Ça, c'est encore une étape évidemment très, très, très importante. Et par la suite, la promotion, en allant dans des classes, en parlant dans des salons du livre, en étant interviewé par des journaux, etc. Ça, c'est la dernière étape.
Quelles sont les aides que vous recevez dans votre métier?
Alors, il faut savoir déjà que pendant le temps d'écriture, on est tout seul. Ça, voilà. En tout cas, moi, je suis toute seule. Alors, il y a des éditeurs qui me disent, mais n'hésite pas, si tu as besoin d'aide, écris-moi, je pourrais peut-être t'aider, te donner des pistes, etc. Je trouve ça génial de la part de l'éditeur, mais moi, j'arrive pas à demander de l'aide pendant la phase d'écriture. J'ai, comme je disais tout à l'heure, là, je suis dans une période où j'ai besoin d'être vraiment toute seule dans ce que j'écris. Après, oui, il y a une aide très importante de l'éditeur quand la première version est terminée, pour retravailler le texte afin qu'il soit le meilleur possible. Donc là, oui, j'accepte très volontiers l'aide de l'éditeur pour ça. Il va me dire, bon, bah, tel passage, il doit être plus dynamique, voilà, des choses comme ça. C'est tout. Voilà, je n'ai pas d'autre aide que celle-ci au moment du retravail.
Quelles sont les 3 qualités d'un écrivain?
Je dirais, la plus grande qualité, à mon avis, qu'il faut avoir, c'est l'empathie. L'empathie, vous savez, c'est quand on arrive à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc ça, pour créer des personnages qui soient forts, qui aient de la chair, qui existent, je pense que l'empathie est primordiale. Ensuite, 2e qualité qui est un peu semblable, c'est la curiosité. S'intéresser aux gens, s'intéresser au monde, voilà, ça pareil, pour écrire des histoires, je pense que c'est primordial. Et enfin, la dernière, je dirais l'exigence.
L'interview de Florence Inkel continue sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub.
Pourquoi avez-vous traité ce sujet sous forme de récit de science-fiction?
Alors, parce que la science-fiction permet de dire beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait se permettre dans un récit au présent. Parce que dans le récit au présent, alors déjà, ça nécessiterait encore plus de recherche pour être juste, pour être vraiment au plus près de ce qui existe. Et c'est très délicat parce que je serais obligée de parler de choses existantes, donc, et peut-être d'attaquer, du coup, certaines dispositions de la loi actuelle ou de la façon dont elle est appliquée, certains gouvernements, etc. Placer l'histoire dans le futur, ben, ça me permet d'inventer, par exemple, le président de la société organique, de le faire vraiment pas sympa du tout. Et puis bon, ben, comme organique n'existe pas, ce président n'existe pas, on va pas m'attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est la même démarche que pour Hashtag Bleu et Terre pour l'éternité, mes 2 autres grands romans de science-fiction. Pareil, qui sont très, très proches de ce qui existe aujourd'hui. Mais simplement déplacer le récit dans 10 ou 20 ans, ça me permet d'être beaucoup plus critique, beaucoup plus facilement sur ce qui se passe pourtant déjà aujourd'hui.
Quelles sont les inégalités sociales qui vous révoltent le plus?
Ce mépris existe pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, quoi. ça commence à l'école. Moi, j'ai pu le constater quand j'étais enseignante. Hein. Voilà, il y a peu de choses faites pour des enfants qui n'ont pas les mêmes codes que des enfants venus de milieux favorisés, qui apprennent beaucoup plus vite parce qu'ils ont les codes, en fait. Et ça demanderait beaucoup plus de travail, beaucoup plus de travail en petits groupes pour ces enfants venus de milieux défavorisés. Alors, dès la maternelle, on ne nous donne pas assez de moyens, par exemple. Voilà. Donc, ça commence dès la maternelle. Et ça ne fait que s'accentuer au fil du temps. Donc, voilà, je pourrais parler d'énormément de paramètres, hein, mais voilà, je pense que là, j'ai dit l'essentiel.
Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre?
Je crois bien que j'ai mis 6 mois, voilà, en plus.
J'ai beaucoup aimé votre livre.
Merci.
Pourquoi avoir choisi une voiture pour la fuite, pour la cavale, entre guillemets?
Ah, bah, la voiture, c'était pour que ce soit un huis clos. Voilà, parce que bon, en moto, déjà, ils auraient peut-être que deux. Ça aurait été un peu gênant, ils n'auraient pas pu se parler. Voilà, la voiture, elle est intéressante, parce que c'est un habitacle où on peut se parler, on peut être dans le silence, etc. Et puis une voiture, ça ne pouvait pas être un train non plus, parce qu'il fallait absolument qu'ils puissent aller où ils voulaient. Puis pour une course-poursuite, quand même, une voiture, c'est quand même ce qu'il y a de mieux.
De quel personnage vous sentez-vous le plus proche?
De tous, il y a un petit peu de moi dans tous, je dirais. J'aime beaucoup le personnage de Leïla, je le trouve très touchant, mais j'aime bien tous les autres aussi.
Est-ce qu'une adaptation au cinéma est envisageable?
Oui, ça serait intéressant au cinéma, effectivement. Hein. Voilà, après, il faudrait que des producteurs soient intéressés, c'est possible. Hein. Voilà, par exemple, il y a U4 et Hashtag Bleu qui sont sous option, hein, des producteurs qui ont posé une option pour pouvoir le développer éventuellement. Alors parfois ça capote des projets, hein. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais qui ont envie de développer ces livres en série ou en film, donc ce qui fait battre nos cœurs, pourquoi pas, c'est possible.
Comment avez-vous choisi le titre et le nom des personnages?
Alors les noms, j'ai pas eu de difficulté, ils sont venus assez vite, assez facilement. Bon, je réfléchis pas trop, hein. C'est un prénom qui me paraît correspondre à une personnalité. Souvent c'est comme ça, sans plus. Et le titre, en revanche, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec l'éditrice à trouver le bon titre. On a beaucoup, beaucoup réfléchi. Voilà, et celui-ci, donc c'est l'éditrice finalement qui l'a trouvé, ce titre-là. Alors, on a hésité parce qu'on avait peur qu'il fasse un peu trop romance, puisqu'il y a cœur dedans, etc. Puis finalement, je l'aime beaucoup. Voilà, je pense qu'on a fait le bon choix.
Avez-vous créé un personnage à votre image? Quel est votre passage préféré?
Non, je n'ai pas créé de personnage à mon image. Je crois que mes passage préféré, c'est quand Leïla est proche de la nature, quand elle se promène dans les bois. Voilà, ça, j'aime beaucoup ces passages-là. Et j'aime beaucoup aussi les passages de la fin. J'ai fait une incursion vers le genre du thriller, où je me suis beaucoup, beaucoup amusée avec ces différentes versions de Noah. Ça, j'aime beaucoup ces passages-là.
Le plan du livre est-il prévu dès le départ, ou bien vous vous laissez guider par l'inspiration et la spontanéité?
Alors, il n'était pas prévu. Il m'a posé beaucoup de soucis, j'ai beaucoup tâtonné en fait. Moi j'ai du mal à prévoir les structures au départ, mais du coup j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à le construire au fil de l'écriture, parce que je voulais quand même que ce soit un roman à suspense, et un roman à suspense, pour ménager du suspense, il faut quand même une construction forte. Donc j'ai beaucoup beaucoup supprimé, réécrit, etc. pour arriver à cette construction-là.
Êtes-vous fan d'un ou d'une autre auteur?
Fan, alors moi j'aime pas trop l'attitude d'être fan d'un auteur, surtout il m'est arrivé de vraiment beaucoup 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 aimer un auteur ou une autrice, et puis j'ai été soudain déçue par un de ses romans, ou déçue par la personne aussi, hein, parce que parfois on adore les romans d'un auteur ou d'une autrice, et puis quand on le rencontre ou la rencontre, on est hyper déçu. Donc voilà, moi je fonctionne pas comme ça, mais il y a quand même, je dois bien dire, en jeunesse, j'adore tous les romans de Sidi Morgenstern, qui est aussi une personne formidable. Les romans de Mario de Muraille, voilà. Puis bon, en adulte aussi, j'ai beaucoup, beaucoup d'auteurs que j'apprécie.
Que pensez-vous du prix Ado en colère?
Ben, c'est super. C'est vraiment, vraiment, de toute façon, intéressant d'organiser ce type de prix qui incite les jeunes à lire des livres diversifiés. Donc moi, je suis totalement pour ce type de prix, évidemment.
C'était Florence Inkel, auteur du livre « Ce qui fait battre nos cœurs ».
Au micro des élèves de 4e D du collège Diderot, Lilou, Mathias, Andrea et Kéliane.
Cette émission autour de la lecture et du projet Adam en colère touche à sa fin. Nous espérons que ça vous a plu. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à ce projet.
Retrouvez cette émission sur radiopfm.com.